Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur un numéro spécial du Comic City, un numéro actu à chaud, et avec moi pour vous parler de cette actu à chaud, et bien sûr, l'indétrônable Sam.
Oui, alors moi je sais pas si je suis très très chaud,
C'est l'actu qui est à chaud, enfin c'est nous qui parlons de l'actu, mais à chaud.
Oui.
Mais en tout cas tu es indétrônable, contrairement à Dan Didio.
Ah oui.
Oh, ça commence mal. Oh, c'est violent. Nous sommes le samedi 22 février. Et oui, un samedi, une émission samedi. En plus, on dit bonjour pour commencer et pas bonsoir. On enregistre à 14h. Mon dieu, le monde est sans dessus-dessous.
Vous ne perdez pas vos repères. Hein. Et ceux qui conduisent pendant qu'ils nous écoutent, regardez bien la route.
N'est-ce pas, Bastien? Oui, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit, de ce qui est tombé en fin de soirée hier soir, enfin en fin de soirée, en début de nuit en fait pour nous, et fin de journée aux États-Unis, l'éviction de Dan Didio. C'est le sujet, puisque bah ça fait des mois que l'on en parle, ça fait des semaines qu'on dit que Dan Didio à la tête de DC est une catastrophe et que il est grand temps qu'il parte. Bon, bah là, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé, par contre, de façon assez étrange. On va revenir dessus, puis on va discuter un petit peu de tout ça avec bien sûr tous les gens qui sont actuellement sur le chat en même temps. Déjà, merci à vous d'être oui. Là pour un truc qui se fait à l'arrache un peu finalement. On a passé un petit peu une partie de la nuit à compiler un peu des infos.
Enfin, toi surtout. Moi, j'ai dormi cette nuit.
Mais dormir, c'est pour les faibles. Ça ne sert à rien.
Ouais, et puis pour vous dire un peu, j'ai reçu, ça s'est organisé hier soir à 11h-10, Steve qui m'envoie un mail. Alors, pour vous donner le contexte, moi j'étais déjà au lit en train de plonger.
Non, je suis désolé si je t'ai réveillé, Sam, c'était pas
non,
du
non,
tout.
Non, j'étais à moitié dans le truc parce que j'étais allé me coucher, j'étais, c'est la fin de la semaine, j'étais bien raide. Je commence à plonger, je reçois un message. Oui, Dan Didio se barre, on fait émission. Ok. Et je replonge. Il a quand même fallu que je relise le message pour ce matin pour vous dire ah, il est bien parti en fait. D'accord. Ce n'était pas un rêve en fait.
Mais qui rêve de comics et tout.
Malheureusement, oui.
Et Liju qui nous dit ce week-end c'est la C22, des annonces sont probablement à prévoir du côté de DC.
Voir parce que ça va être compliqué pour eux d'avoir des annonces à ce moment-là.
Ils sont
en phase de réorganisation.
Étant donné qu'ils ont annulé la participation apparemment à pas mal de trucs, il y a aussi la Comics Pro là en ce moment, et d'après les infos que j'ai pu trouver, il y a seulement deux gars qui sont venus, des gars du marketing qui sont assez connus hein, chez DC, qui ont l'habitude de faire ce genre de salon pro, et qui sont venus faire juste une présentation de 12 minutes. DC a totalement annulé déjà auparavant sa participation à cet événement. Il y avait juste ces deux marketeux qui sont venus faire leur petit speech de 12 minutes, pas plus. Et quand la news est tombée, parce que apparemment personne n'était au courant, et on va y revenir plus en détail, et ben les mecs se sont barrés en catastrophe, quoi.
Ouais.
Donc c'est assez complexe. Il y avait pareil, hein, comme je vous dis, j'ai passé une bonne partie de la nuit à compiler pas mal d'infos, à essayer d'aller lire plein de trucs pour essayer de voir un petit peu s'il y avait des signes annonciateurs qu'on aurait peut-être ratés maintenant qu'on a un peu la fin de l'histoire, et encore la fin de l'histoire. En tout cas, qu'on a le dénouement principal.
De la fin de l'histoire.
Qu'on a le dénouement principal, voir s'il y avait des choses qui pouvaient, qu'on aurait pu voir peut-être. Et non, pas du tout. Alors tout ce que l'on sait, c'est que DC avait décidé cette année de réduire énormément sa participation aux des salons. Que Didio et Jim Lee avaient prévu de faire les choses à l'ancienne pour cette année et de faire des tournées à travers les comic shops dans les États-Unis. Mm-hmm. Donc,
renouer un peu le lien, ce qui est plutôt une bonne idée.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, puisqu'on sait très bien que la marque est en perte de vitesse quand même. Alors, on va revenir un petit peu sur l'ensemble. Alors, première chose, donc voilà, le départ de Danny Dio. Départ des missions, ça on ne sait pas. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune info. DC a bien confirmé la chose. Ça, c'est certain, c'est confirmé par DC. Maintenant, Danny Dio ne s'est pas exprimé du tout. Personne ne s'est exprimé autour. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a rien eu. Et bah pour le moment, on ne sait pas si c'est un renvoi, si c'est une démission. Et l'un ou l'autre ne sont pas du tout la même chose, en fait. Ça ne renvoie pas du tout à la même chose.
C'est surtout le moment où ça arrive qui est étrange. Parce que même si ça fait un moment qu'on dit il est temps de... Bah, tout simplement de passer à autre chose. Faire ça à la veille d'un prochain reboot, c'est étrange.
Oui. C'est assez étrange. Ce qui m'étonne, ce serait que Danny Dio ait démissionné. Enfin, si franchement le mec a démissionné, sachant qu'il est le mec qui pousse le plus pour la 5G depuis le départ, on n'entend que lui sur ce sujet. Ça donne l'impression. Alors attention, encore une fois, hein, le mec aussi est peut-être un bon petit soldat qui fait les choses pour la boîte pour laquelle il est employé, même si ça ne lui convient pas. Mais le mec pousse depuis des mois par rapport à ça, fait annonce sur annonce concernant cette 5G. On a comme l'impression qu'il est derrière le projet, qu'il le soutient à bout de bras, voire même qu'il est celui qui a lancé le projet.
Ouais, qui a initié les choses.
Si le mec démissionne alors que ce projet est en train d'aboutir, qu'est-ce que ça renvoie comme signal, quoi ? C'est ça qui est assez étrange.
Ouais, c'est une période véritablement étrange pour DC, parce que on va faire un point sur l'univers DC de manière générale un peu plus tard dans l'émission, mais c'est une période qui est transitoire dans leur existence. Ils sont entre deux périodes et deux remises à plat. Et on sent que ça pourrait aller un peu dans toutes les directions ou dans une seule. Ce dont on se plaignait depuis un moment de la part de Dan Didio et de DC en fait de général, parce que Dan Didio est l'étendard, voilà, la cible de toutes les critiques et de parce qu'il est il occupe la position centrale, mais il n'est pas responsable de tout. Enfin, il est responsable en tant que tête, mais ce n'est pas lui qui dirige concrètement tous les bureaux et tous les staffs édito de la maison. Voilà, quand quelque chose ne marche pas, il le prend sur lui, et quand ça marche, c'est grâce aux auteurs et au staff édito. Voilà, c'est pour ça que la position en fait d'éditeur en chef qui est chez Marvel, là, il était plutôt président ou vice-président. Enfin, de toute façon, l'organigramme DC est un foutoir absolu. On sent que c'est le résultat en fait de lutte de pouvoir à l'intérieur de la maison. La position en elle-même est toujours compliquée. Parce que on l'a vu avec Joey Quesada, on l'a vu avec Axel Alonso et on le voit avec Sebastian Sibulski aujourd'hui, on l'a vu avec Dan Didio, on les juge responsables de l'état de la maison, quoi qu'il arrive. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien, ce sont les premiers à prendre.
En même temps, c'est le but d'un poste à responsabilité aussi.
C'est ça. Mais comme je le dis, c'est en plus compliqué chez DC, parce que autant on voit que la structure de Marvel est assez simple en fait. Voilà, c'est bien un pool d'auteurs qui sont jugés les plus vendeurs. On a un staff d'éditeurs qui sont les tenanciers de la maison, avec Joey Quesada qui continue à jouer un rôle important. Tout ce petit monde se réunit de manière régulière et, on va dire, dicte la direction générale de la maison pour l'année ou les années à venir. Chez DC, ils n'ont pas ça, en fait. J'ai l'impression que ça vient beaucoup moins des auteurs et beaucoup plus des éditeurs en eux-mêmes, qui vont dire, en gros, oui, on a cette vision pour les années à venir, et on essaye d'accorder ça avec les plans des auteurs, sachant que eux sont beaucoup plus susceptibles de sauter. Donc j'ai l'impression que c'est une structure qui est à la fois plus rigide, moins souple que celle de Marvel.
On va voir si celle de Marvel reste intacte. Hein. Rappelons-nous que Kevin Feige a été nommé dans un poste à responsabilité chez Marvel. On verra si les choses ne vont pas évoluer aussi dans les prochains mois.
Oui. C'est pour ça qu'on parle de Dan Didio. normalement, il était sur un pied d'égalité avec Jim Lee, mais concrètement, comment il répartissait les choses? Sachant qu'en plus, ils ont un éditeur en chef qui est Bob Arras.
Oui.
Et je crois qu'il y a, Jeff Jones avait assuré une fonction de Chief Creative Officer
ouais. Mais qui n'est plus, hein, au profit de Jim Lee.
Voilà.
Qui,
donc c'est.
Qui est devenu Chief Creative Officer et vice-président avec Dan DiDio.
C'est un peu byzantin quand même, hein, comme organisation chez eux.
Jonathan qui nous dit fallait qu'un fusible saute. Et Dan DiDio était là depuis 2002. Par contre, Bob Arras est tranquille. C'est bien le problème d'ailleurs.
Bah, je pense que Bob Arras n'a pas vraiment un rôle de prééminent dans la maison. Je pense qu'il a plus un rôle technique, c'est-à-dire faire en sorte que les trucs sortent dans les temps et mais il n'a pas cette il n'a pas l'impulsion créative qu'un éditeur qu'on attend d'un chef créatif. C'est pas lui qui va embaucher les gens, qui va aller débaucher les créatifs. Je ne le vois pas faire ça personnellement.
C'est vrai que
il est vraiment dans le fond du décor en fait.
C'est vrai que du coup on pense plus facilement à un renvoi pour plusieurs raisons d'ailleurs. Une des raisons principales que j'ai pu trouver, c'est qu'apparemment toute la journée de vendredi, Dan DiDio était à son poste. Le mec a même envoyé des newsletters par mail, hein, comme il fait au comic shop. Donc dans la journée, il a envoyé ça. Le mec a fait son boulot et c'est arrivé vraiment de façon très soudaine, quoi. Alors, quelles pourraient être les raisons de son renvoi? C'est surtout ça qui est intéressant. Est-ce que c'est simplement une décision qui vient de Warner? Enfin, Warner. AT&T, parce que rappelons que Time Warner a été racheté par AT&T en 2018. Alors, ce qui nous a mené d'ailleurs à une aussi, et on reviendra sur elle, à une nouvelle présidente, qui est Pamela Ford.
Je ne connais pas, mais c'est pas grave.
On va en parler.
En ce qui me concerne, j'en doute fort. Je ne pense pas en fait que même DC Comics, j'entends la branche publication, soit même sur le radar en fait de AT&T. Ça je pense qu'ils seraient même surpris de savoir qu'ils détiennent ça en fait.
Apparemment si ils le savent très bien.
C'est pour moi c'est comme chez Disney, ils savent je pense quelque part dans des hautes sphères d'exécutifs, oui, on a Marvel Comics, mais ce qui les intéresse c'est avant tout la branche média, la branche jeux vidéo et la branche produits dérivés parce que c'est ça qui rapporte du pognon. Ils laissent exister pour moi les branches publications parce que c'est eux qui vont venir avec les nouveaux concepts sur lesquels ils vont faire le maximum de pognon dans les autres marchés. C'est le seul truc qui existe pour eux. Après, le niveau de profit généré par ces boîtes est comparé à la taille, soit Disney ou AT&T, c'est peanuts. C'est de l'argent de poche. Parce que Marvel et DC doivent générer quelques dizaines de millions de dollars de bénéfices chaque année. Je vais pas dire que c'est l'argent pour le portier, mais quasiment pour eux.
Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas juste prendre en compte l'argument combien les comics rapportent, puisqu'il y a tous les produits dérivés qui vont avec, qui sont tirés de cette branche comics.
Mais c'est ça. C'est pour ça que pour moi, tous les délires sur Marvel et DC vont fermer parce que Disney et TNT n'en veulent plus. Je ne pense pas parce qu'ils savent que c'est des incubateurs à concept pour eux. C'est des incubateurs à futurs produits qu'on va pouvoir vendre. Donc pourquoi s'en débarrasser lorsque le bilan final est très largement positif pour eux? Ça leur coûte quasiment rien. Voilà, parce que le domaine de comics en termes de production et de coût de production pour eux, c'est que dalle. À part ça, eux, ils voient surtout, d'accord, combien de jouets vous pouvez me sortir cette année, combien de nouvelles figurines, combien de nouveaux jeux vidéo, combien de nouveaux films, combien de nouvelles histoires. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Pour moi, c'est en haut de leur pyramide, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, comment ça se passe concrètement à l'intérieur? Je me pose la question, effectivement, alors, est-ce que, effectivement, parce qu'on a déjà eu le cas d'un éditeur en chef, un pseudo-éditeur en chef qui claque la porte, c'était justement Bob Arras, en 2000, qui est parti, on s'en souvient, parce qu'il ne voulait pas, en fait, partir dans un nouveau plan de réduction d'effectifs et de sanctionner, en fait, des gens qui travaillaient pour lui. Donc il a dit, non, je ne ferai pas ça, je m'en vais. C'était, je pense que c'était pour lui la dernière dernière limite, parce qu'il avait quand même pas mal réduit la voilure et pas mal renvoyé de gens dans cette fin des années 90. Donc là, je pense qu'on a atteint des limites. Je pense que c'est plus ce scénario-là, à savoir que on lui a demandé en haut de virer des gens, il a dit non, je préfère m'en aller.
Ouais, après Bob Arras a quand même été aussi l'instigateur de pas mal de j'étouffe le marché, et notamment avec le New 52. Il a bien poussé pour qu'il y ait plein de trucs pour essayer d'étouffer Marvel.
Bah le New 52 en même temps étouffait le marché pas vraiment, puisque si on s'en souvient, justement le New 52 il ne sortait que 52 titres. C'était une réduction de ligne comparée à ce qu'on a aujourd'hui, parce que si on regarde les derniers chiffres, DC était revenu à quasiment 90 à 100 titres publiés par mois. Voilà. Ce qui était, grosso modo, leur niveau de production à la fin des années 90. Au moment du New 52, ils ont vachement réduit. Alors ça c'est... On l'a moins vu parce qu'en fait, il y avait des numéros 1 partout. Il y avait de nouvelles séries qui sortaient toutes les semaines. On se souvient de périodes assez dingues. Mais en termes de réduction de ligne... Et en fait, si on y réfléchit, quand on y pense, la ligne était beaucoup plus diversifiée que ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Et ce que t'avais effectivement les grosses franchises qui étaient bien mises en avant, mais t'avais des petites séries dans tous les coins. T'avais du Frankenstein, t'avais du High Vampire, t'avais du Resurrection Man. On se souvient, bon, c'était vraiment des retours de titres un peu passés qui ont permis de révéler des talents en plus.
Ah donc, oui, non, mais les New 52 ont eu un très très bon démarrage.
C'est juste que les New 52, alors là on dérive un peu sur l'histoire de DC, l'histoire de DC sous la tutelle de Dan Didio, c'est qu'à chaque fois en fait il y a eu un bon départ, mais ils n'ont pas su jurer sur la durée.
Je vais prendre quelques petites réactions sur le chat parce qu'on a pas mal de réactions, alors ça part un peu dans tous les sens et on va y venir, hein. Je vais pas prendre tout maintenant parce que comme on a un minimum de plans qu'on va suivre, oui, on va essayer, je prendrai d'autres réactions au moment venu. Mais je vois par exemple Novatelli qui nous dit « La 5G, c'est le clou de son cercueil, ils vont sortir un film Batman classique, on peut pas avoir un autre Batman que le Bruce Wayne classique. » Je vais prendre également la réaction d'Elijou qui nous disait, parce que ça va conforter le point vers lequel je vais, les grands persos ont un impact dans les médias généralistes, c'est une question d'image. Deux persos Marvel se marient ou s'embrassent, on en parle même en dehors des frontières. Le destin de persos comme Superman, Batman, Spider-Man ont un écho dans les médias.
Ouais.
Et pareil, petite pierre apportée à ça par Gray, qui nous dit « J'écoutais ce matin un podcast dans lequel intervenait Jim Starlin, qui disait que quand DC s'est rendu compte de tous les produits dérivés à l'effigie de Robin, ils m'ont viré. Il réécrit sans doute un peu l'histoire, mais il doit y avoir un peu de vrai. Toutes les licences DC étaient sur le point d'être mises à mal, pas sûr que ça ait plus en haut lieu. » Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'il faut savoir, je parlais de Pam Lee Ford tout à l'heure, qui est à la tête de la branche médias et produits dérivés de chez AT&T, et donc qui gère DC, entre autres. Pam Lee Ford, c'est quelqu'un qui est dans le business depuis 25 ans. Donc c'est pas une débutante.
Non, c'est pas une newbie.
Elle a passé, je crois, 12 ans chez Disney. Donc c'est pas rien non plus.
Oui, ça va.
Ce qui explique peut-être un certain modèle.
Voilà. Différence de culture.
Certains modèles qui risquent d'être appliqués à DC. Pam Lee Ford est quand même pas mal responsable de tout le déploiement de marques et de branding autour de Harry Potter. Et ça, c'est pas rien. Harry Potter est un véritable succès, la licence est extrêmement connue. Il y a les romans, bien sûr, il y a les films, faut pas oublier tout ce qui est à côté, il y a les nouveaux films qui sortent, les créatures fantastiques ou je sais pas quoi là, il y a le parc d'attractions, il y a tout un tas de merde en rapport avec la licence, enfin, quand je dis de merde, enfin, vous comprenez l'idée quoi, en rapport avec la licence, et tout ça,
ça veut dire merde,
c'est elle qui a poussé quoi, c'est elle qui a énormément poussé à ça, donc en termes d'image et de ce que rayonne au niveau des produits dérivés, elle se pose là, et on l'a mise à la tête. C'est pas pour rien. Je regardais un petit peu en fouillant un peu partout. Apparemment, Pam Lee Ford a été extrêmement en colère récemment pour une histoire dont on a pas mal parlé. C'est passé assez vite, mais apparemment, elle a été extrêmement en colère quand on a vu la bite à Batman.
Ah oui.
Oui, mais c'est elle qui est à la tête, Sam. Mm-hmm. Et ça l'avait mise hors d'elle. Et ça s'est très mal passé, apparemment, avec Dan DiDio et Jim Lee. D'où les Black Book, Black Label. Etc. Elle est vraiment très, très franchise. Franchise, pousser la franchise, le rayonnement de la franchise, et voir la bite à Batman, ça fait de l'ombre à la franchise. Alors justement, ça, on en revient sur le renvoi de Dan DiDio. Donc ça peut être une pure décision de qui vient de AT&T Warner, qui, rappelons-le, avait déjà fait une restructuration l'année dernière aussi. Ils avaient viré 3% des effectifs. Alors 3%, ça paraît beaucoup. Il y avait 240 salariés, donc ça faisait 7 personnes qui ont été licenciées.
Oui. Donc malheureusement dans la partie trade paperback. Et on va dire collection, ce qui est un vrai problème, parce que depuis cette époque, c'est un peu le bordel chez eux. Hein. Alors ça faisait un moment qu'ils annulaient fréquemment des bouquins, mais depuis qu'ils ont fait cette réduction, il n'y a plus aucune visibilité sur leur programme. On ne sait jamais ce qui va vraiment sortir.
Une autre explication, peut-être, les problèmes de vision éditoriale, hein, la 5G qui arrive, et peut-être que en haut lieu, on dit on veut pas que tous les héros changent et que lui maintient son truc et que finalement, n'arrivant pas à avoir raison, on l'a mis dehors. Pour aussi faire un petit signal d'alarme à Jimmy en disant toi tu restes, mais par contre t'as intérêt à faire ce qu'on dit, sinon tu files le même chemin. Ça peut être ça. Encore une fois, on n'est que sur de la spéculation. On n'a pas d'infos réelles pour le moment. On n'a pas encore de déclaration officielle. Donc, on est sur de la supposition. On peut être complètement dans le faux. J'entrevois aussi une autre possibilité, parce que ça fait beaucoup de scandales en ce moment. Une sanction suite à des comportements douteux.
Faut dire que pendant très très longtemps, DC, c'était je pense un non-dit dans le milieu général de l'édition, a toléré en son sein des gens qui n'auraient pas dû être à des positions aussi élevées. Eddie Berganza, pour ne pas le citer, qui est resté quand même à la tête de la franchise Superman pendant quasiment 15 ans, alors que son bilan depuis des années était désastreux.
Tout à fait, et ce n'est pas le seul chez DC à avoir eu des problèmes. Il y a eu pas mal d'auteurs, pas que des éditeurs, mais il y a aussi eu des auteurs pour lesquels qui travaillent pour DC, qui ont pas mal de casseroles au cul. Scott Lobdell, par exemple, qui a des casseroles au cul. Il y a celui qui écrivait Border Town, j'ai oublié son nom, dont la série a été purement et simplement arrêtée sur des allégations de... Je dis allégations parce que, pour le moment, il n'y a pas eu de preuves, il n'y a rien eu de tout ça, c'est pas forcément passé en jugement, donc je vais pas prendre parti, je n'en sais rien. Mais les allégations de d'harcèlement sexuel à tendance un peu viol. On sait pas, est-ce que DiDio avait ce genre de comportement? Est-ce qu'il protégeait peut-être des gens qui avaient ce genre de comportement? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a viré aussi?
Ça peut être une des raisons,
je dis pas que c'est celle-ci, attention, n'ai aucune info moi.
Sur son comportement, je ne pense pas, parce que vu sa position, ça serait sorti depuis très longtemps. Est-ce qu'il l'a toléré? Je pense. Un peu trop longtemps, d'ailleurs. Parce qu'on, comme je dis, on a le cas de Berganza qui est quasiment un cas d'école. Alors, je pense qu'aussi, il y avait cette culture de... ça reste en interne. Le problème, moi, que je vois sur ce genre de tolérance principale, c'est qu'en fait, il n'a jamais véritablement été sanctionné. Jusqu'à ce que la pression soit telle qu'il soit obligé de le virer. Quand on voit que le mec est passé et resté aussi longtemps à la tête de la franchise Superman, tu te dis, il y a quand même un souci. Est-ce que sans le virer, est-ce que il aurait pas mieux valu de le mettre dans un placard, dans un coin où il aurait pu mettre la main sur les jeunes internes qui passaient?
Alors je vois passer des réactions aussi sur le chat. Par exemple, Iliju qui nous cite provenant d'un article de Bidding Cool, qu'apparemment, selon des sources proches du dossier, comme on aime à le dire, sur le fait qu'il aurait été viré parce qu'il provoquait un environnement de travail assez désagréable. On va le traduire comme ça. Et ça peut également être une raison. Je vois qu'il continue de nous citer justement Elijah, et je prends les réactions en même temps, je traduis ça à la volée, donc excusez-moi si c'est moyennement français. J'aime bien Jean-Claude Vandamisé, ce que je lis. apparemment, la Konix Pro, il y avait beaucoup de discussions parmi les revendeurs hein, sur son éviction, on va le dire ça comme ça. Et apparemment, le nom de Scott Snyder aurait été mentionné pas mal de fois comme un des facteurs, apparemment, en interne chez DC. Snyder s'opposait beaucoup à ce qui était prévu à la 5G. Et pensait que justement ça pouvait notamment provoquer des dégâts chez les revendeurs.
Là on est véritablement dans les pures spéculations, donc je vais pas m'aventurer.
Bien sûr, non mais c'est intéressant de relayer ce qui sort un petit peu, on pourra trier le vrai du faux quand on aura un petit peu plus de lumière là-dessus, et on va pouvoir voir aussi ceux qui se mettent en avant, ceux qui racontent de la merde, et ça va permettre
de pouvoir faire... Il y en a qui racontent de la merde.
Ça va permettre aussi de pouvoir faire le tri, voilà. Apparemment, donc...
Mais je suis bien, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais quand j'ai vu toutes les réactions de créateurs, d'artistes, ou de trucs, je me suis dit, c'est pas possible, il est mort, en fait. C'est plus des vœux de condoléances que des qu'autre chose, hein.
Ah bah, là, le truc, c'est que je pense que professionnellement, dans le comics, il est mort, oui. Après te faire virer comme ça, sans ménagement, sans explication, sans rien, en fin de semaine, en plus il y a tout le week-end où les gens vont amplifier les rumeurs, etc. On n'aura pas d'annonce officielle, on n'aura pas d'annonce à la presse avant lundi, voire mardi.
Si on en a.
Si on en a une. Mais le fait...
C'est un peu familier de tout mettre sous le tapis.
Enfin, je pense que le fait de le virer un vendredi soir... et de laisser le week-end passer comme ça, où les gens sont dans l'incertitude, savent pas ce qui se passe... Je pense que c'est pas anodin non plus. Et de ne pas réagir. S'ils avaient voulu le protéger, il aurait démissionné, tu vois. Il serait parti. Ils auraient fait un truc à l'amiable et le mec aurait posé sa dem, aurait fait un petit discours de com et n'aurait pas voulu heurter la marque. Là, il y a quand même clairement les signes d'un renvoi, pur et simple. Et je pense que professionnellement, il est dead.
Ou d'une démission en raison d'un désaccord profond. Qui fait qu'il a claqué la porte... de manière soudaine et relativement violente.
Il a été viré vendredi matin, par contre, à 10h30, nous dit Gré. Ah, peut-être, ouais, j'ai pas fait attention à l'heure. J'avoue que c'est vrai que nous, comme c'est arrivé le soir, j'ai décalé, oui. J'ai décalé le truc à peu près en fin de journée, mais ouais, effectivement. à voir, on va revenir très vite sur Dan DiDio lui-même, quand même, parce que, mine de rien, il est resté... un sacré paquet de temps chez DC, ça fait quasiment 20 ans qu'il est là.
Ouais, parce qu'il est arrivé en 2002.
C'est pas une petite carrière chez DC. Le mec est rentré en 2002 en tant que vice-président de l'éditorial, ainsi que scénariste pour Superboy, mais voilà.
Oui, c'était pour un arc temporel.
Il est assez vite monté en tant que vice-président exécutif, éditeur vice-président exécutif du DC Universe, en octobre. Donc, d'octobre 2004, donc en à peine deux ans, il est passé de juste vice-président éditorial à vice-président exécutif, ce qui est pas rien. Et puis il a été nommé co-publisher en février 2010. Le mec a une sacrée carrière quoi, ouais. Chez DC, en termes de responsabilité. Toi, tu voulais, t'avais noté un truc assez intéressant sur sa carrière, Sam. Je vais te laisser l'ordonner parce que je trouve ça très drôle.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'avant de rejoindre DC en tant qu'éditeur, il était surtout responsable, enfin, il avait travaillé sur une série animée dans les années 90 que les vieux routards de Canal+, se rappellent avec beaucoup de tendresse, mais dont le titre est, comment dire, ironique. Au vu de la carrière de Dan DiDio, puisque c'était la série qui s'appelait Reboot. Vu la carrière qu'il a menée, les choix qu'il a pris chez DC,
oui,
c'était une marque du destin, je pense.
C'est ça. Il n'aura pas fait que des choses mauvaises, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'arrête pas de dire « il faut qu'il dégage », parce que éditorialement, ça va pas. Il n'a pas fait que des choses mauvaises. Loin de là.
Pour moi, avant tout, il faudrait... séparer quasiment sa carrière chez DC en deux. Je trouve que le début et quasiment toute la décennie 2000 est très bonne, c'est-à-dire de 2003 à on va dire 2008. Pour moi, il y a une vraie direction. Il y avait quelque chose parce que tu as le triptyque Identity Crisis, Infinite Crisis, 52, One Year Later, Final Crisis et même Blackest Night, puisque c'est de 2009, Blackest Night. Donc tu as quand même 5-6 premières années qui sont très fortes, je trouve, avec beaucoup de projets que personnellement j'ai énormément aimé, une direction générale que j'ai appréciée. Et en fait, le gros tournant, ça va être les années 2009-2011, en fait. Parce que les années 2010-2011, avant le reboot de New 52, sont catastrophiques. Enfin, on a une chute des ventes et un positionnement d'éditeur extrêmement mauvais. Moi, je me souviens de l'état de la franchise Superman en 2010, avant le reboot. C'était une catastrophe. Mais une catastrophe. Le titre Wonder Woman était au fond des fraises.
On avait mis Straczynski dessus, ça pouvait être bien, mais le problème, c'est que Superman qui marche, ouais, ça intéresse personne.
Voilà. Tu as le reboot de New 52, qui, en lui-même, je peux comprendre l'intention générale de... Il faut une nouvelle relance pour une nouvelle décennie et, je veux dire, réattirer l'attention des lecteurs sur nos produits et nos bouquins, avec énormément de nouvelles équipes créatives qui arrivent sur les titres. Très très bien. Le problème, c'est que ça a été préparé en 4 mois. 4 mois, quand on pense que Crisis Infinite Earth a été planifié sur quasiment 2 ans. 4 mois pour un reboot global, et on se pointe, moi je me souviens de cette conférence de presse, où c'était dans une... Mais c'était juste après l'annonce. On avait fait une émission d'ailleurs là-dessus, vous pouvez la rechercher, où ils nous disent « Oui, mais la continuité, effectivement, on venait d'apprendre que c'était réduit à 5 ans, et tout le monde se demandait « Mais comment ça marche ?» Et tout ce qu'ils disaient, c'est « Faut juste avoir en tête que les principaux événements sont toujours là. » Voilà, on n'y a pas touché, c'est toujours là. Et t'avais une espèce de flou général sur la continuité qui, en fait, les a poursuivis sur l'intégralité de la décennie, puisque, que ce soit les auteurs, les éditeurs ou Dan Didio lui-même, ne savaient absolument plus ce qui était dans la continuité de ce qui n'était pas.
Et ça, c'est une déclaration officielle. Hein. On en avait parlé il y a quelques mois, ouais, quand c'est sorti, que d'aveu même des éditeurs en chef chez DC, à savoir Jim Lee et Dan Didio, on ne sait plus ce qui est en continuité ou ce qui ne l'est pas, ce qui compte ou ce qui ne compte pas comme histoire.
Et ironiquement, les problèmes sont essentiellement venus en plus de la franchise Superman. Parce que t'avais cette intrigue avec Doomsday qui revenait à un moment avec menée par Charles Soule, et tu te demandais, mais attends, c'est un retour ou c'est une première rencontre? Parce que la manière dont c'était écrit, t'avais l'impression que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Donc tu dis, attends, mais ça fait 5 ans qu'on nous dit que Death of Superman est dans la continuité, là tu nous dis que non, on comprend plus rien. Et c'est un peu ce que je disais sur tout à l'heure sur l'incapacité de DC à maintenir son niveau de qualité sur une durée qui excédait 2 ans. Parce que les débuts de New 52, je dirais la première année et la deuxième, sont relativement bien gérés. Hein. T'as pas de gros ratés, les initiatives globales et diverses fonctionnent. C'est vraiment quand on arrive sur la troisième et surtout la quatrième année, quand on a eu cette DC New Age, c'est ça? Avec, toutes les nouvelles intrigues qui arrivaient où on bousculait le statu quo.
Ah ouais, c'était peut-être New Wave. C'était peut-être New Wave. Je sais plus comment ça s'appelait, ça.
Ouais. Et ça, tu voyais que ils étaient désespérés d'essayer de réattirer l'attention qu'ils avaient au début du New 52. Ça partait dans tous les sens, sans aucune cohérence. Il y avait aucune cohérence dans ce qu'ils faisaient. Donc évidemment, les lecteurs se disaient, mais est-ce que c'est encore un univers partagé? Est-ce que ça fonctionne encore comme ça? Et quand t'as plus l'élan général que donne un univers partagé, ben finalement ça fonctionne pas.
Il y a Greg qui nous disait 52, Didio n'arrêtait pas de cracher dessus. Pour lui, Countdown c'était bien meilleur. Mais on le voit, on voit que l'importance de Dan Didio et l'importance qu'il accordait au projet ces dernières années était en total décalage avec les attentes des lecteurs. Convergence, c'est lui, hein. Faut pas l'oublier, ça.
Ouais.
Et Convergence, c'était pas bien.
Et
quelque chose de pas si mal, parce que finalement, ça nous a permis de ramener le Superman original, plus ou moins, nous ramener John, enfin le fils de Superman, et d'enchaîner par la suite sur Rebirth. qui répare un peu les choses. Mais Convergence en lui-même, c'était pas bien.
Non, ben je l'ai pas lu. Et d'ailleurs, les lecteurs en général se sont Nova désintéressés du machin.
Convergence, quelle horreur. Ouais, voilà.
Ouais. Et le truc, c'est que, comme je dis, il ne parvenait pas à maintenir dans la durée la qualité. C'est encore une fois vu avec Rebirth. Et je pense que, alors si on va vers la voie du départ, il paye un peu ces deux dernières années. Ou dû au retard, c'est même pas dû au retard de vos écloques, c'est dû à l'incapacité de l'univers DC de véritablement être coordonné de manière générale, où on avait un peu l'impression, mais qu'est-ce qui se passe en fait?
Greg nous dit Convergence est édité par des contraintes logistiques, oui, rappelons qu'ils avaient déménagé de la côte Est à la côte Ouest à ce moment-là. Oui. Et il nous dit pour le retour de Superman, on ne donne pas assez de crédit au boulot incroyable qu'a fait Jurgens dessus. Ah mais je suis entièrement d'accord, on a cessé de le répéter qu'Jurgens avait fait un boulot fantastique. Et relisez la série le Superman Lois et Clark, si vous en doutez, elle est...
Pareil pour les Wix.
Elle est magnifique cette série. Magnifique. C'est un véritable boulot et un véritable travail et un véritable amour du personnage, quoi.
Donc je dirais voilà, c'est un bilan qui est au final mitigé parce que il arrive au bout de 20 ans avec si on compte les différents reboots, on doit être au 3e ou 4e mine de rien parce que tu avais One Year Later qui agissait un peu déjà comme un soft reboot.
Mm-hmm. Ouais, c'est Final Crisis donc en 2006 hein pour ceux qui se rappellent pas.
Le New 52, Rebirth et donc l'annonce de la 5G. Donc on arrive à 4 reboots ou soft reboots en même pas 20 ans. Ça commence à faire beaucoup.
Greg qui nous dit que DiDio était vraiment contre le fait que les personnages soient mariés.
Ce qui est compréhensible. Alors, pour certains personnages, je pense que c'est idiot, parce qu'ils existent depuis tellement longtemps, ils sont ensemble depuis tellement longtemps que vouloir les séparer est une idiotie totale. Je comprends que c'est un problème pour les éditeurs d'avoir des super-héros mariés, parce que tu as énormément d'auteurs qui leur disent... Ça tue en fait toute tension dramatique au sein du couple. Parce que tu ne peux pas les faire divorcer parce que tu peux pas avoir un super-héros qui divorce. Voilà. Tu ne peux pas tuer un personnage parfois qui est tellement célèbre qu'il tu peux pas tuer Lois Lane par exemple. Enfin, à moins que tu veuilles te faire éviscérer par les fans, tu vas éviter. Donc c'est un peu l'impasse en fait générale sur un pan de la vie dramatique d'un personnage qui est ben tu le maries. Bah, il n'ira pas voir ailleurs. Il n'y aura plus cette tension qu'il peut avoir parfois, et c'est un jeu habituel dans les séries qui durent longtemps.
Putain, je sais pas si ça gêne vraiment, quoi.
Bah, ça dépend comment c'est écrit. Personnellement, je suis assez partagé sur cette idée, parce que personnellement, je me souviens du run de JMS sur Spider-Man, où justement la relation Peter-Mary Jane était l'un des points forts de la série. C'était un de ces éléments de vie quotidienne du personnage qui était tellement bien écrit, tellement frais, que ça faisait partie quasi, même dans les épisodes qui étaient faibles, s'il y avait ça, bah j'étais content.
Nova nous dit Rebirth, ça vient de DiDio, il a pas un peu laissé les rênes à Jeff sur ce coup. Pour moi, DiDio revient avec le New Age of Heroes, Silencer, Damage et toutes ces saloperies nulles. Je pense que l'impulsion de vouloir faire un reboot provenait de DiDio. Il a laissé les rênes à Jeff Jones pour construire le truc, et c'est pour ça que Rebirth se tient sur le départ.
Oui, parce que Jeff Jones a une vraie cohérence sur l'univers DC. C'est pour lui, en fait, on a là deux approches, je pense, complètement différentes de l'univers DC, entre un Dan DiDio qui pensait qu'il fallait essayer d'avoir une approche assez moderniste, ce qui est pas un problème en soi, mais qui voulait se débarrasser un peu d'une partie de l'histoire de DC. Et Jeff Jones, qui est même pas, c'est un amoureux du Silver Age, on le sait, mais je pense qu'il y a une approche plus globale, en fait. Pour lui, tout est dedans, et il faut essayer de synthétiser l'ensemble. Ce qui est en rapport complet avec son approche, en plus scénaristique, parce que c'est quelqu'un qui aime revenir sur des éléments passés, pour en fait en faire un tout cohérent. Quand tu prends Green Lantern, il a pris des éléments de mythologie qui étaient complètement dispersés, qui n'avaient aucun lien entre eux, et il a relié ça dans un tout qui était, qui en faisait une mythologie beaucoup plus riche. Et c'est ce qu'il fait encore sur Shazam.
Et bah voilà, t'as pris l'exemple que j'avais donné. Effectivement, sur Shazam actuellement, le mec a complètement amplifié la mythologie. Il a réappliqué le traitement qu'il avait déjà fait sur Flash ou sur Green Lantern en amplifiant la mythologie complète du personnage sur un point de détail.
Et ça fonctionne toujours terriblement bien, même au bout de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a cette méthode. Ça fait 20 ans que, bah, à chaque fois, ça fonctionne. Moi, quand je lis Shazam, personnage en lui-même ne m'intéresse pas des masses. Pourtant, j'adore cette série. Quand elle sort.
Oui.
Alors maintenant, elle est régulière. Là, on a plusieurs épisodes d'affilée qui sont réguliers. Donc, croisons les doigts pour la suite.
J'ai l'impression, alors pareil, c'est des regards a posteriori et on est encore un peu dans le show et c'est vrai que tant qu'on est dans le truc, on analyse pas trop et une fois que la news tombe, c'est là qu'on commence à essayer de regarder en arrière pour essayer de comprendre. J'ai l'impression que le dérapage dont on parle chez DC depuis maintenant presque un an, bah c'est depuis que Geoff Johns n'est plus Chief Creative Officer et que la tâche est partagée seulement entre DiDio et Jim Lee.
Tout à fait, ouais. À partir du moment où il a cessé de véritablement être dans les opérations quotidiennes, d'impulser en fait la direction générale, parce que c'est ça qu'a fait Rebirth. Ça a impulsé une direction générale avec un point d'arrivée et une cohérence globale. À partir de là, c'est parti dans tous les sens. Et on en a parlé plusieurs fois dans les émissions. Pour moi, on a eu une balkanisation en fait de l'éditeur entre différents clans de scénaristes et d'éditeurs qui ont commencé à s'affronter en interne pour essayer d'imposer leur direction. D'un côté le clan Bendis, de l'autre Snyder, Williamson et Tynion Four, et perdu au milieu des gens comme Tom King qui se disait bon, peut-être me retirer des séries régulières et revenir sur mes projets limités parce que là on me fout la paix.
On va prendre, avant d'envisager un peu l'avenir de DC, on va prendre un peu quelques réactions des auteurs. Beaucoup d'auteurs hein, qui le soutiennent, qui sont vraiment un peu tristes de le voir partir. Je pense qu'ils sont aussi tristes de le voir partir comme ça. Bon, il y a quelques voix dissidentes qui s'élèvent par-ci, par-là.
Oui, des voix très connes.
Du genre Rob Liefeld.
Oui, mais je sais pas,
le mec, quoi.
Ouais. Ah, mais, de toute façon, Rob Liefeld, bon, il a toujours été un peu con. Un peu beaucoup. Là, depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'il part. Alors déjà, ça a commencé l'année dernière où il est parti un peu déraillé sur le relaunch X-Men. Ça fait des mois qu'il nous dit c'est de la merde, ça vaut rien, alors que bizarrement les précédents relaunch de X-Men, ça lui faisait rien. Là, bizarrement, comme ça marche, ça lui fait de l'ombre, j'ai l'impression. Mais alors sur Dan DiDio, ça faisait un moment qu'il avait, une hache prête à partir sur lui, parce que je pense qu'il y a eu un gros désaccord entre eux, à un moment, puisque Rob Liefeld avait énormément travaillé au monde du New 52 sur plusieurs titres, qu'au bout d'un moment, comme c'était un peu tout pourri,
oui.
Voilà ce qu'il faisait, on lui a gentiment montré la porte, et ça, il l'a très mal pris. Voilà. Et quand je voyais certains de ses commentaires sur des titres, on disait « Oui, mais regardez un peu le dessin, les dessinateurs qu'on m'a filé, alors que c'est des très bons artistes. » Tu te dis « Oui, mais vous avez vu le scénario aussi ? Parce que c'est un peu de la merde. Hein. » Voilà, Hawkman, par exemple, pour ne pas le citer, c'est tout pourri. Et c'était lui qui dessinait.
Ouais, non, mais c'est...
Voilà, je dirais la dernière personne qui devrait critiquer, c'est justement Rob Liefeld, hein, parce que le nombre de casseroles que le monsieur se traîne, le nombre de maisons d'édition qu'il a coulées, c'est bien de nous dire que t'as vendu 5 millions d'unités de X-Force il y a 30 ans, mais qu'est-ce que t'as fait depuis ?
J'ai vu justement, je pense que tout le monde l'a vu, hein, ceux qui sont passés sur Bleeding Cool, cet article, c'est un petit peu à part, mais ça me... Disons que pour moi, ça montre la direction un peu générale de DC. Et peut-être pourquoi cette éviction d'un DiDio à l'approche de la 5G. Le fameux article sur la statue de Harley Quinn et Poison Ivy, une très très belle statue hein, qui est designée par Emanuela Lupacchino, où on voit Harley qui est derrière Ivy, poser la main sur la hanche, qui lui offre une espèce de fleur, et t'as tout ce discours qui te vend la statue comme « Oh là là, mais la Saint-Valentin, c'est pas que l'amour, c'est aussi être les meilleurs amis du monde. » Et je pense que il y a un côté assez conservateur chez DC, là, actuellement. Une réaction purement homosexuelle entre Ivy et Harley Quinn, C'est pas bon. C'est pas bon. Et vu ce que l'on a déjà comme info, la direction, et Nova nous en parlait aussi tout à l'heure, hein, Nova Tedis qui nous disait le Batman qui n'est pas Bruce Wayne. Ouais, ça va poser problème. Ça va poser problème. Un Batman noir, ça va poser problème. Un Batman noir qui n'est pas Bruce Wayne. Et je pense que toutes ces décisions-là, autant la décision du Batman Black du jour au lendemain, je suis pas forcément d'accord avec, parce que je trouve que c'est très con. Alors qu'on pourrait introduire un personnage et le rendre aussi important que Batman, peu importe la couleur de peau du personnage, au lieu de remplacer purement et simplement. Autant le côté progressiste d'une Harley Quinn en couple avec Poison Ivy, moi, me pose absolument aucun problème. Bien au contraire.
Surtout que ça fait 10 ans qu'on nous la meurt, donc ça y a pas de...
Mais là, c'est DC qui rétropédale complètement en disant non, son meilleur ami. Et on a cette page, c'est assez édifiant, de la mini-série Harley et Poison Ivy, où sur la page finale, on voit Ivy faire un bisou sur le front à Harley, et on voit que ça a été redessiné à l'arrache. Ça devait pas être juste un petit bisou sur le front. Et c'est moche. La page a été redessinée, ça se voit.
Je l'ai pas vu.
Comme le nez au milieu de la figure, c'est affreux. Donc...
Bah, DC est historiquement un éditeur beaucoup plus conservateur.
Est-ce que ça aussi n'a pas mené à son éviction Voilà.
Le fait qu'il soit plus progressiste que la plupart des éditeurs chez eux.
Peut-être. Ouais, c'est peut-être, possible, peut-être un peu trop. Mmh. Un truc que j'ai vu passer. Alors là, on va y mettre toutes les pincettes avant de parler d'avenir.
Oui,
parce que ça
nous
amène dessus. Vu la source, exactement. La source, c'est Ethan Van Sciver. Alors, si vous ne connaissez pas le monsieur, ou si vous connaissez juste de nom, hein, dessinateur assez connu qui a beaucoup travaillé sur Flash, notamment.
Très bon artiste, qui aurait dû le rester. Qui aurait dû juste rester artiste, en fait.
Mais le monsieur a des positions à la droite de la droite.
Oui, ça comme ça. Alors, j'ai personnellement pas de problème particulier avec des gens qui sont à droite. Mais il y a droite, et puis il y a le fond de la droite. Le fond de la droite qui, en général, se situe au fond des poubelles.
Qui donc bah a des positions très controversées. Voilà, le mec a des positions très controversées et ça il y a pas de problème effectivement sur les controverses qu'il amène. Maintenant, ce qu'il a partagé là, Greg, il nous dit Chuck Dixon aussi est dans le clan de Van Sciver.
Malheureusement, oui. Alors Chuck Dixon a historiquement été toujours un auteur qui était plutôt à droite, donc qui était conservateur. Ces dernières années, il est parti très très loin, voilà. Quand il lance un titre récemment chez un éditeur qui s'appelle Trump Space Force, ouais. Tu vois, il y a à droite et puis il y a Trumpiste. Voilà. Je ne vais pas cacher mon opinion sur le monsieur, mais il n'est pas follement favorable.
Nova qui nous dit Didio était progressiste.
Bah plutôt, hein.
Peut-être pas à 100% progressiste, évidemment, mais il a quand même fait beaucoup pour aller dans le sens du progrès. Quand on regarde ce qu'il a amené, quand même. Alors, tout n'est pas parfait, mais de toute façon, rien ne sera jamais parfait. Ça, c'est certain. Bah, mais il a fait beaucoup. Pour moi, il a fait beaucoup, quoi. Ça se fait... Bon, après, faut regarder l'ensemble de la carrière sur 20 ans, mais je pense qu'il a fait beaucoup, ouais. Mais tout n'est pas parfait. Il y a aussi eu des moments où il retenait un petit peu les chevaux. Peut-être que il est arrivé à s'ouvrir un peu. Gray nous dit amener Bendy, c'est une preuve d'une volonté de progressisme, pour le moins que l'on aime ou pas, bien sûr.
Bah le problème, c'est on va pour prendre 10 secondes et fermer cette parenthèse. Le problème que j'ai avec Bendy, ce n'est pas le progressisme. C'est l'écriture.
Oui, mais on va revenir sur le cas Bendis, voilà. Sam, dans quelques instants. Je prends juste la réaction d'Ethan Van Sciver, histoire de virer ça et qu'on puisse passer à autre chose.
Nettoyons.
Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas fermer les oreilles et qu'il faut entendre ce qu'il dit. On le garde dans un coin de la tête et on verra s'il avait raison ou pas. Ce qu'il dit, c'est que pour lui, AT&T est prêt à fermer totalement décès si la 5G se casse la gueule. Selon lui, il aurait discuté, je vais mettre du conditionnel, il aurait discuté avec des gens bien placés dans le staff de chez DC,
Et oui, des sources bien informées.
Voilà, mais oui, mais c'est toujours des sources bien informées.
Les sources
informées.
Autorisées. Les
sources bien informées qui ne disent pas leur nom, bien sûr.
Surtout quand elles sont inventées.
Baf. Moi, je vais pas aller dire jusqu'à inventer. J'en sais rien. Donc, c'est pour ça que je le pose là. Vous en faites ce que vous voulez. Selon lui, et d'après ce qu'il aurait pu glaner comme information, je vais vous le traduire à l'arrache, pareil, mais je vais vous le traduire pour essayer de moins perdre de sens possible. Comprenez bien, ça veut pas dire que les personnages vont s'en aller. Batman, bien sûr, est un joyau chez AT&T maintenant. AT&T, c'est Batman, et ils vont continuer de le mettre dans des films et de produire des jouets et tout ce bordel. Les comics sont morts et ils vont fermer la branche de publication bientôt. Je vous dis donc ce que j'ai discuté avec un professionnel récemment qui disait, oui, je parlais avec un des hauts placés de chez DC, qui disait que si la 5G ne marche pas, c'est la fin. AT&T va fermer la branche publication.
Ouais. Ce à quoi je dis mon cul.
Voilà.
Comme je dis, non mais même pas pour par amour en fait, parce que comme je dis, je ne pense même pas que AT&T ait une quelconque affection. Voilà, c'est une corporation, ils n'en ont rien à foutre de ces comics. Ils le garderont quoi qu'il arrive, parce que pour eux c'est un incubateur à concept. Voilà, je reviens sur mon argument de départ. C'est pareil pour Disney. Se contrefoutent de leur branche publication, parce que c'est peanuts en termes de profit, mais en termes de nouveaux concepts, nouvelles idées, nouveaux personnages qu'on peut exploiter ailleurs, c'est parfait. Ça coûte pas cher, et ça peut rapporter gros.
Je vois les Joe qui dit ce camp a un goût certain pour les fake news. Gray nous dit AT&T aurait quel intérêt à fermer DC? La branche de comics de Warner ne perd pas d'argent et est une source potentielle de développement d'auteurs. Sans les comics, ils n'ont pas Jeff Jones ou Tom King pour écrire leurs films.
Bah, ils ont pas de films surtout.
Et Nova qui nous dit Van Syver qui parle de la 5G, mais quel enfer. Je suis d'accord avec vous. Je ne prête pas plus de crédit que cela à Van Syver. Mais j'estime qu'il est normal qu'on relaie son propos. Mm-hmm. On l'entend. On le garde dans un coin de la tête et on pourra bien se foutre de sa gueule quand on verra qu'il a tort.
Oui, et quoi, s'il avait raison, on a toujours des comics d'essai dans 10 ans.
Mais s'il avait raison, préparez-vous à entendre putain, je vous l'avais dit. Et ça c'est certain.
Pitié. Et ce sera tout le clan Van Syver.
Et ce sera tout le clan Van Syver qui pourra se permettre de dire, voyez, arrêtez de nous traiter de complotistes. C'est pour ça que je pense qu'il faut le relayer. Après, vous y apportez le crédit que vous voulez. Surtout, nous on dit pas, on est d'accord ou pas. De toute façon, on relaie juste l'info. Là où je voulais en venir sur les auteurs, ce dont parlait Gray, par rapport aux auteurs, pareil, en fouillant un peu, en croisant des articles par-ci par-là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que DC avait changé complètement son fusil d'épaule concernant les auteurs. Alors certes, ils ont amené Bendis. Ça, oui, on peut pas faire plus auteur de comics que Bendis. Par contre, les derniers ajouts concernant les scénaristes d'essai, notamment sur toute la branche Young Adults que l'on peut voir fleurir, on a encore eu un graphic novel Zatanna qui est sorti cette semaine, ce sont principalement des auteurs de romans. Et pareil, toujours d'après des sources proches, machin, on révèle pas notre source parce qu'on veut pas tarir les infos qui tombent par-ci par-là, mais c'était une volonté claire de la part de DC dans les prochains mois et les prochaines années de se distancier peu à peu des auteurs de comics et de ne recruter quasiment que des personnes qui écrivent des romans et ce genre de choses là qui ne s'embarrassent pas forcément d'écrire des comics pour faire des comics mais simplement pour raconter des histoires. Je sais pas quoi en penser. D'un côté, il y a une partie très très louable de vouloir nous raconter des bonnes histoires, et de l'autre côté, si tu mets des gens qui n'y connaissent rien aux comics, qui ne savent pas ce qu'est le média comics, comment veux-tu écrire des comics?
Alors, je suis pas totalement d'accord avec cette position, parce que je pense en fait, ce qu'il faut avoir en tête en termes de phénomène d'édition, c'est l'explosion du young adult et des livres à destination des enfants aux États-Unis depuis 10 ans. J'en viens à donner un exemple. Il y a peu de temps, je crois que c'était ICV2 qui avait, ou un autre grand site qui avait nommé la personne la plus importante pour les comics au cours de la dernière décennie, celle qui a eu la plus grande influence. Et en fait, c'était une jeune femme auteure de romans pour jeunes enfants. Pourquoi? Alors que je n'en avais jamais entendu parler, si bien que je ne peux même pas resituer son nom. Pourquoi? parce que la jeune dame, en 4 ou 5 livres, avait vendu 2 millions d'exemplaires. Hmm? 2 millions.
Après, moi, j'ai pas de problème sur les projets Young Adult, notamment toutes ces espèces de petits graphiques nouvelles que l'on voit sortir. Moi, ça me pose pas de problème. Hmm? J'ai un problème quand des gens qui ne connaissent pas le comics essayent d'écrire un média sériel. Là, j'ai plus un problème parce qu'ils n'ont pas forcément les codes de ce que t'attends dans du comics. Si c'est pour lire des graphiques nouvelles, c'est très bien, mais dans ce cas-là, publiez des graphiques nouvelles, et j'ai pas de problème avec ça. Si vous me sortez un comic tous les mois ou toutes les deux semaines, comme ça arrive sur certaines séries chez DC, j'ai un problème quand dans l'histoire, tu n'es pas capable de faire le récit tel que l'on l'attend, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, une histoire qui avance, une fin qui te donne envie d'aller lire la suite, et pas genre, ah bah on a coupé là parce que ça faisait 20 pages, et puis bah la suite le mois prochain, de toute façon vous allez revenir. Voilà, et que t'as pas de twist, t'as pas de... Il y a quand même un code à respecter dans le comics pour que les gens reviennent.
Ça ne m'inquiète pas trop, pour la simple raison que des auteurs restent des auteurs. Ils savent s'adapter au médium dans lequel ils travaillent.
Ah, on a vu que c'était pas toujours le cas, ça.
Bah écoute... Je peux te citer le cas Warren Ellis, qui, comme je l'ai dit depuis un certain temps, le floppy, il en a rien à foutre. Hein. Le fait que ce soit en 20 pages, il s'en branle complètement, alors que c'est un auteur de comics depuis presque 30 ans. Donc tu vois, c'est pas juste des auteurs extérieurs, c'est aussi des auteurs maison depuis longtemps, qui se disent, ouais, ben le média floppy, j'en ai plus rien à foutre.
Eh oui, dans ce cas-là, on ne devrait pas les publier en floppy. Pour moi, c'est simple. Moi, j'ai aucun problème à aller lire un graphic novel. Hein. Ça me pose pas de soucis. J'ai juste envie que quand j'attaque un média, je sais à peu près à quoi m'attendre. Si tu m'envoies sur des numéros suivants, bah, j'attends que tu me donnes une accroche pour envoyer sur le numéro suivant. Ça fait partie du truc. Alors que le graphic novel, eh ben, tu vas me raconter l'histoire, elle prendra 120 pages à se mettre en place et à se terminer. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, bah, attention aux médias sur lesquels tu publies tes trucs, quoi. pour Didio, l'avenir, ce sont les graphiques novels disponibles chez Amazon, Barnes & Nobles, nous dit Gray.
C'est une branche qu'ils peuvent exploiter. Ça fait longtemps qu'ils essaient de la développer. J'ai l'impression que ça commence vraiment à prendre avec le Black Label, c'est-à-dire des mini-séries autocontenues dans leur propre continuité. Bah, jusque-là, on en dit que du bien, donc ça serait dommage qu'ils arrêtent. Ensuite, je pense que c'est surtout un déploiement d'une gamme variée, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. La grande faiblesse en fait de DC en ce moment, c'est que c'est leur univers principal qui ne fonctionne plus très bien. Voilà. Autant c'est bien d'avoir une ligne diversifiée, ce qu'ils ont réussi à faire, puisqu'ils ont les titres Sandman, ils ont des titres indépendants, ils ont les titres Joy Hill, ils ont le Black Label, mais leur ligne principale souffre.
Et justement, ça nous amène sur le dernier point pour notre émission, l'avenir de DC. Que va-t-il se passer maintenant chez DC? Tout ce que l'on sait, c'est que Jim Lee va assurer l'intérim pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit nommé, ou qu'on le nomme définitivement au poste, ou qu'il ait quelqu'un qui le rejoigne en tant que co-éditeur en chef comme il travaillait avec Didio. Moi, j'avoue que Jim Lee seul à la tête, c'est absolument pas rassurant pour moi. Bien au contraire.
Ouais.
Je suis pas certain que le mec ait une super vision pour le truc. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? La possibilité première, je pense qu'on aimerait tous, c'est un retour en force de Geoff Johns.
Oui. Mais il a déjà annoncé qu'il écrirait plus cette année. Donc je ne pense pas qu'il se concentrera sur des fonctions éditoriales.
Après, c'est tellement sorti de nulle part que, tu sais, il va peut-être revoir ses priorités. Nova qui nous dit, justement, on a Snyder ou Geoff Johns. Justement, Snyder, je l'avais pas mis, mais effectivement, au vu de ce qui tombe un petit peu par-ci par-là, Snyder, c'est aussi un choix possible.
Comme éditeur? Mm-hmm. Non, il est auteur pur. Hein. Ah. Tout comme Geoff Johns, hein. C'est un auteur pur.
On sait pas. Tu sais,
Non, j'essaie de rechercher qui est l'éditeur de du Black Label. Parce qu'en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, que ça a la même importance que Marvel Knights avait en 2000, en fait. C'est-à-dire le petit label qui, à l'intérieur, fait des choses et fonctionne.
Je vais te dire ça dans quelques secondes, juste le temps de retrouver...
C'est pas Danny Boyle?
Danny Boyle? Attends, je suis en train de retrouver avec Bucket Full of Heads, je vais bien avoir le truc. Il faut juste que je retrouve un numéro par-ci par-là, là, histoire de voir ce qu'il y a écrit sur la cover. Et bien sûr, c'est quand tu cherches un truc que tu ne le trouves pas.
Oui, évidemment.
Forcément.
Ah, attends, j'essaie d'ouvrir des trucs, moi aussi.
C'est terrible. le petit moment malaise où on essaye de remplir un peu. Basket Full of Heads. Voilà, je l'ai là. Alors, l'éditeur, c'est Mark Doyle et Amedo Turturro.
Ouais, Mark Doyle qui donc gère l'essentiel. Attends, parce que ça, c'est Joe Hill Comics. C'est bizarre, il n'y a pas les noms des éditeurs sur la petite Black Label.
Si, si.
Mais là, t'es sur un comics Joe Hill.
Ah oui, bah oui, je suis sur un comics Joe Hill, oui. Ce que tu me disais sur le comics
Joe Hill. Non, j'attendais l'éditeur de Black Label.
Ah, du Black Label. Oh, bah écoute, du Black Label, je vais te trouver ça tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. On va aller chercher juste, par exemple, on va prendre sur Arlene. Hein. Ça sera très bien. Il y aura forcément les noms qui seront marqués sur Arlene.
Quelque part.
Qui nous avons c'est Andy Khoury qui est l'éditeur pour Arlene. Je ne sais pas si c'est le même pour les autres. Mark Doyle est toujours éditeur exécutif, hein, de toute façon, du Vertigo et du Black Label. Donc,
ouais. Ouais, bah, je mettrais bien Mark Doyle, du coup. Parce qu'il était, bah, il sait gérer des trucs, il a plutôt le vent en poupe, donc, ça pourrait être leur Joey Quesada.
Jonathan dit Jeff Jones, ça n'arrivera pas, la Warner ne va pas laisser faire autre chose que les films. Il peut y avoir Jamie S. Rich, qui est actuellement éditeur en chef, je crois, des groupes Superman, si je dis pas de conneries.
C'est ça. Oui, mais comme il est avec Bendis, je dirais non.
C'est également un des potentiels. Malgré tout, il faut pas l'oublier, Bendis chapeaute énormément de choses chez DC actuellement, énormément de gammes. Oui, il a des éditeurs au-dessus de lui, bien sûr. Mais c'est quand même lui qui gère toute la franchise Superman, qui gère toute la franchise Teens. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une montée
statut éditorial, non. Ça, il a toujours dit que ça l'avait jamais intéressé.
Ouais, mais il a plus le même âge qu'avant.
Oui, mais il est plus toujours sur la partie auteur.
Danny Dio, d'avoir des fonctions d'éditorial, ne l'a jamais empêché d'écrire en même temps. Elle écrivait moins. Mais il donnait sa patte et sa direction à tout. Ça peut être une possibilité, malheureusement.
Je ne pense pas, non. Personnellement, je n'y crois pas. Ah ben,
moi, je l'espère pas. Vraiment, je ne l'espère pas. Parce que, au vu de ce qu'il a montré actuellement depuis qu'il est arrivé chez DC, je n'espère pas qu'il prendra en charge l'entièreté de la gamme.
Et Greg, il va dans mon sens. Bendis est très heureux à Portland. Il ne boulera jamais à elle. Aucune chance.
Et ben, moi, j'espère. Je ne souhaite absolument pas ça. Qui on pourrait avoir d'autre, franchement, ça devient compliqué.
Bah, le problème, c'est qu'ils ont des éditeurs qui savent gérer. Donc ce serait plutôt à eux de leur donner les coups des franches, voilà. Ensuite, à voir maintenant ce que ça veut dire au niveau de la 5G. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ou pas? Nous verrons bien. Parce que ça, ce qui m'intéressait véritablement dans cette 5G, c'est que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils avaient pensé leur truc sur la durée. Avec, on a un historique de DC bien arrêté, bien pensé, bien établi, et on se lance dans un nouveau truc. Là, pour une fois, ça avait été, ils avaient pris leur temps. Ce qui est, c'est un peu la première depuis 10 ans. Donc, j'espère que ça, ils en sortiront par le haut.
Le mec qui nous dit je veux pas, il est rincé ce mec, il est nul, excusez-moi, je suis un enfant, c'est tout ce que je déteste en comics. Fait beaucoup rire. Jonathan nous dit Jim Lee fera la transition et je pense qu'ils vont peut-être donner le poste à Snyder pour donner un message positif aux fans. Morrison n'en a rien à carrer.
Bah c'est bizarre de vouloir donner des positions d'éditeur à des auteurs en fait. Parce que autant c'est traditionnel de voir des éditeurs passer et devenir scénaristes, il y a assez peu de scénaristes qui sont devenus éditeurs eux-mêmes.
Là, on avait Paul Levitz, putain, t'as.
Oui, mais ça remonte à longtemps.
Ouais. Joe Quesada.
T'es plus dessinateur que scénariste. Et il assumait déjà des fonctions éditoriales avant. Allez, Jim Shooter.
Oh.
Pour les bons souvenirs.
Off.
Bah écoute, il leur faut une main forte pour reprendre le dessus. Allez, allons-y, Jim Shooter. Je sais pas s'il aura encore l'énergie vu son âge, mais
Je t'avoue que là c'est la totale incertitude. J'aurais envie de proposer le nom qu'on veut tous. Mark Wade. Mais comme on l'a annoncé jeudi, et c'est tombé cette semaine, le mec vient de prendre un poste éditorial. Il avait déjà un poste éditorial, mais vient de prendre des responsabilités supplémentaires chez Humanoids.
En même temps, si DC lui fait le pont d'or qu'il mérite, je pense qu'il acceptera.
Je pense qu'on aimerait tous hein, que Mark Wade prenne la place, mais est-ce pas trop tard ?
C'est quelqu'un qui saurait bosser avec Jeff Jones, et je pense avec Snyder.
Est-ce que c'est pas trop tard, Mark Wade ? Parce que rappelons, hein, de toute façon, rappelons juste une chose. On a l'exemple dans la maison d'en face chez Marvel. Quand Quesada est parti, qu'Axel Alonso a été mis en place, on était content du départ de Quesada qui trouvait emmener la franchise Marvel dans de mauvaises directions.
Non, mais il le disait lui-même, j'étais grillé à ce moment-là, ça faisait 2-3 ans. Je crois qu'il a dit que ça faisait 2-3 ans en fait, qu'il pilotait vraiment plus trop le truc et qu'il laissait Tom Brevoort et Axel Alonso piloter la maison.
Le shift s'est fait, Axel Alonso a pris la place.
Et il a emmené, années, était bien.
Le début était pas mal, puis il a emmené Marvel encore plus loin que Quesada du côté mauvais. Au point, alors après c'est une réaction personnelle, il y a des gens qui ont adoré ce passage-là, et tant mieux pour eux, je suis très content pour vous. Moi, je ne lisais plus un seul titre Marvel régulier, à l'époque
moi,
d'Axel
Alonso. Deux.
Les directions qu'il prenait étaient pour moi insipides. C'est un peu la même chose qu'on a actuellement chez DC pour moi. Quand Axel Alonso est parti et a été remplacé par Sibi Sibulski, on était content. Hein, c'est-à-dire, bah, enfin, ça va changer. Sibi Sibulski, en plus, l'habitude, puisqu'il était recruteur de talent, donc il avait l'habitude de travailler avec les auteurs, de voir les forces dans les auteurs, et donc on espérait qu'il puisse leur laisser une certaine liberté créative pour qu'ils puissent s'exprimer sans pour autant négliger la marque Marvel en elle-même. Il a fallu attendre quelques mois que les projets d'Alonso, parce que le mec a quand même été sympa, il les a poussés jusqu'au bout, les projets d'Alonso qui étaient dans les tiroirs, il les a emmenés jusqu'au bout, et ensuite il a commencé à porter sa marque. Et ça marche. Combien de séries Marvel on lit actuellement ?
Beaucoup. Mais en même temps, faut pas t'attribuer à CBS Bulls, qu'il y a, hein. Il y a énormément de choses qui sont en fait des projets de long terme menés par Alonso. La relance de la franchise X-Men, on le sait, c'était dans les tuyaux depuis 2015. Donc c'était un truc miné par Alonso lui-même qui attendait juste le bon moment pour sortir. Et je pense que le fait aussi que Hickman soit prêt.
Oui, mais il n'a pas fait que ça. Regarde les directions créatives qu'il a données à certains titres. Des titres comme Hulk, des titres comme Daredevil,
Venom. Hein, Hulk.
Je pense qu'il laisse les auteurs s'exprimer et c'est une bonne chose. Mais il a fallu attendre plus de 6 mois à partir du moment où il a été nommé c'est à la
normal.
Tête. Donc, même si on a quelqu'un qui est annoncé dès lundi en remplacement d'Andy Dio, on verra pas les effets tout de suite. Ça, faut pas l'oublier. Donc, non. Même si on a des mecs, et je vois par exemple Gray qui nous dit Mark Wade ou Jeff Jones seraient des choix évidents pour les fans, même si on a des mecs comme ça qui prennent la tête de DC dans les semaines à venir, il faudra pas les bâcher tout de suite en disant « Ouais, mais maintenant qu'ils sont là, ça va changer » et qu'en fait, ça met 6 mois, 8 mois à changer, parce que... Bah,
oui, c'est-à-dire que si vous lisez votre comic de la semaine et que c'est toujours pas bon, n'allez pas vous dire « Ah, oh, mais il est nul, cet éditeur !»
Surtout que, malgré tout, ce sont des gens qui ont un certain respect du travail des autres et leur laisseront finir leurs histoires. Avant, au moins leur donner une porte de sortie propre. Finissez vite, vous finissez votre truc, on passera à autre chose ensuite, mais finissez, on vous laisse finir. Parce que ce sont des mecs qui viennent de là, qui viennent de pool d'artistes, et ils ne décideront pas, ils savent très bien ce que ça fait d'être viré d'une série du jour au lendemain, je pense, et donc ils vont pas l'imposer aux autres. Oui, ou Jeff Jones ou Mark Wade, qu'est-ce que j'aimerais, quoi? Qu'est-ce que j'aimerais?
On aimerait tous.
Mais, bon. Greg qui dit comment Batman 90 sera encore pourri? Ah bah bravo Mark Wade.
Il n'est même pas nommé, que c'est de sa faute. C'est de sa faute si c'est pas bien.
Nova qui nous dit chez DC ça allait plus vite, ça se fait en rupture de quelque chose. Ouais. Quel est l'avenir pour cette 5G justement? Quel est l'avenir? On a appris cette semaine qu'il y avait pas mal de changements concernant le FCBD. On en a parlé rapidement jeudi lors du Comics Weekly. Des reprints qui finalement ont des nouvelles pages, des petits changements. Il y a toute cette séquence de one shot qui doit arriver, qui va s'appeler Generation 1, Generation 2, Generation 3, etc.
Ça m'intéresse beaucoup.
Jusqu'à arriver au Generation 5. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ah, il joue qui lui est Buzziek, il est retraité complet.
Il est plutôt chez Marvel.
Ben, en ce moment, oui, il écrit Marvels. Les suites préludes de.
Je sais pas quoi. Snapshot, je crois que ça s'appelle.
Ah oui, qui est la suite de Marvel's Camera, là, je sais pas quoi.
C'est ça, ouais.
Avec donc, il a eu des gros problèmes de santé, revient progressivement.
Et je pense, je pense qu'aussi ce retour explique, par exemple, le fait qu'on ait l'omnibus Thunderbolt. C'est aussi pour ça. Donc je croise mes doigts pour le Untold Tales of Spider-Man, le truc qui est épuisé depuis 20 ans que j'aimerais bien avoir.
Je trouve qu'il y a beaucoup de zones blanches dans cette 5G, nous dit XP, ce qui m'a fait beaucoup rire à l'instant. Franchement, là, c'est de la pure incertitude. On espérait que ça bouge. On avait envie que ça bouge chez DC, ben voilà. Ça fait des semaines qu'on le dit. Mais je t'avoue, sincèrement, que même si ça fait des semaines que je dis qu'il faut qu'une seule chose arrive, c'est le départ de Dandy Dio, malgré tout ce qui m'énerve actuellement en termes d'éditorial chez DC, je trouve que le virer comme ça, c'est quand même sale. Et c'est très moche. Et le mec, malgré ses défauts, malgré les choses, même si je ne suis pas d'accord avec sa direction, je trouve qu'il ne mérite pas ça. Le faire virer sans ménagement comme ça. Alors oui, quand tu remplis pas ton travail, tu pars. Mais je pense que quand on a un poste à responsabilité comme cela, et qu'on est une figure de proue véritablement chez DC, parce que le mec, on a beau dire ce qu'il veut, ça a toujours été un amoureux des comics.
Ah bah quand tu écoutais ses interviews en direct, tu sentais son enthousiasme. Tu sentais son énergie, tu sentais ce « lisez-moi ça, lisez, c'est bien !»
Le mec a toujours été amoureux des comics. Il aime peut-être pas forcément les mêmes choses que nous. Il a toujours détesté les sidekicks. Je veux dire, on lui doit la destruction de Wally, de Roy, de Dick. Enfin, tout ce qui est sidekicks, il a passé son temps à essayer de les détruire depuis qu'il est là. Je n'apprécie pas ça. Mais peu importe, le mec méritait un peu plus d'honneur que ça. Le mec méritait qu'on lui dit bon, t'es renvoyé, on va te laisser partir, genre tu démissionnes. Le mec aurait mérité ça. Bon après, peut-être qu'on lui a proposé, peut-être qu'il n'a pas voulu. Non, je démissionnerai jamais. Bon, bah, il a été renvoyé. On ne sait pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais je trouve que c'est quand même très sale et très moche de l'avoir jeté sans ménagement comme ça. Réaction de Snyder, nous dit Eliju. Dandy Dio est une des personnes les plus passionnées que je connais en ce qui concerne ce média. Il aime les comics de tout son être. Il était aussi un des premiers défenseurs de mon travail. Il m'a soutenu sur Black Mirror quand d'autres ne voulaient pas que ça arrive. Puis sur La Cour des Hiboux, American Vampire, etc., etc. Voilà. Oui, c'était un amoureux. Mais le problème, c'est que c'est comme tout. Tu peux pas tout réussir. Il a fait des erreurs. On n'est pas d'accord avec lui, mais on peut reconnaître quand même qu'il a mené, en tout cas pendant une partie de sa carrière, DC sur de très bons rails. Pour ça que je pense.
La première. Je dirais la première partie de sa carrière. Bah, les années 2000 jusqu'en 2009, pour moi, étaient bonnes.
Je vois Eliju qui nous donne aussi ce que Bendis a dit. Dandy Dio a je trouve pas le mot que je veux en français, je suis désolé, je fais mon genre de Vandame encore une fois, a respecté toutes les promesses folles qu'il m'avait faites. On s'est rencontrés tous les deux il y a 2 ans après la folie de mon expérience de mort imminente. Voilà. Il a utilisé il a utilisé tout ça pour me faire atteindre mes rêves personnels, les plus grands et les plus petits. Et puis bon, voilà, pour tout l'amour aussi qu'il a donné à l'imprint Wonder Comics. Donc Wonder Comics, hein, c'est la branche pour jeunes, rappelons-le. Donc Teen Titans, etc., etc. Young Justice, tous les autres titres dans le même genre. Voilà grosso modo ce que l'on sait actuellement. C'est un peu C'est un peu juste. On fait des prédictions un petit peu, on vous donne notre sentiment là-dessus. J'espère qu'on aura plus d'infos d'ici le Comics Weekly la semaine prochaine et qu'on pourra donner un peu plus d'infos. J'espère que les choses vont se démêler un petit peu. Parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de flou. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de flou autour de cette histoire pour le moment. Ça me dérange. Ça me dérange qu'il y ait autant de flou sur cette histoire. Et je t'avoue que là, je vais faire mon petit rêve complotiste à moi. Si le mec a été viré sans ménagement, j'espère juste qu'il fera sa revancharde et que le mec ira balancer tout ce qu'il sait.
Ah oui.
Et qu'il nous sorte les choux gras dégueulasses de ce qui se passe derrière. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre. Peut-être n'est-il pas responsable de toutes les erreurs qu'on lui attribue.
C'est vrai. C'est fortement possible. Hein.
Comme tu l'as dit, il a toujours pris le blâme quand il y avait quelque chose qui allait mal, en protégeant les auteurs.
Et pour ceux qui disent, je vois Jonah qui dit après Didio, le mec, je vous garantis qu'on va vite le retrouver dans notre média, je le vois bien sur les plateformes de streaming pour coordonner les adaptations de comics. Fais attention parce que Dan Didio a 60 ans. Il est pas tout jeune. Tout comme Grant Morrison qui a aussi 60 ans. Voilà, vous venez de vous prendre un gentil coup de vieux. Comme moi quand je l'ai appris. Oui, Grant Morrison a 60 ans.
Ah, je vois justement qui correspond parfaitement à ce qu'on disait actuellement. Eliju qui nous dit qui nous file un tweet de Liam Sharp qui nous dit quand les choses étaient un petit peu rudes sur Twitter, Dan Didio une fois m'a téléphoné en me disant ne le prends pas personnellement, je suis là pour prendre la responsabilité de tout et je prendrai le blâme. Tu continues juste de faire ce que tu as à faire et laisse-moi gérer toute cette merde. C'est pour ça que je suis là. Donc effectivement. Ouais.
Mais de toute façon, Liam Sharp est toujours... contrairement à un certain Rob Liefeld, lui est un gentleman.
XP qui nous dit « Hashtag balance ton décès ». Ben ouais.
Sachant que Liam Sharp a révélé récemment que l'une des raisons pour lesquelles il avait été absent des comics pendant longtemps, c'est que il y a certains créatifs qui avaient, balancé pas mal de saloperies sur son dos. Mais vraiment des saloperies. Ce qui fait qu'il avait été blacklisté pendant longtemps. Des saloperies qui étaient fausses.
Bah bien sûr, mais c'est pas drôle sinon ça.
Voilà, donc ce qui fait qu'il a quasiment tout perdu dans les années 2000, sa maison, c'est pas mal de choses. Et donc c'est son retour là, ça fait quelque chose. Et c'est en grande partie, je refais le lien, c'est en grande partie grâce à Dan Didio qu'il a pu revenir.
Il y a Greg qui nous dit, n'oublions pas que Snyder, lui, s'est installé récemment à LA. Je dis ça, trois petits points. Mais ça va être intéressant à suivre. C'est assez palpitant. On espérait que les choses bougent, malgré tout. On avait envie que ça bouge un petit peu. Ah bah là, ça bouge. Peut-être un peu trop, d'un coup. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et loin de moi l'idée de me réjouir du malheur de quelqu'un, parce que je pense que le mec a dû vivre ça très mal. Il s'est quand même sacrifié pendant toutes ces années pour cette boîte, pour depuis presque 20 ans. Se faire virer sans ménagement comme ça va quand même pas être facile à encaisser. Et malgré tous les désaccords que je peux avoir avec lui, je trouve qu'il ne mérite pas ça. Sincèrement, je trouve qu'il ne mérite pas ça. Et je pense que ça va vraiment pas être facile pour lui. Apparemment, Didio est parti se ressourcer. Ouais, je pense qu'il en a sacrément besoin. Ouais.
Oui.
Le pauvre. Enfin, mais vraiment, c'est... C'est ouais, vraiment, je trouve ça moche. Je trouve ça moche.
Il y a des manières de faire les choses. Oui.
Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est un véritable manque de respect pour quelqu'un. Si la boîte est ce qu'elle est aujourd'hui, alors avec ses défauts, avec les problèmes qu'on lui connaît, les fans qui crachent dessus, etc. Mais si la boîte est toujours bien en vue, c'est quand même aussi grâce à lui. Donc bon, ben. En attendant d'avoir une réaction de Dan Didio, d'avoir une réaction de chez DC et de voir qui prendra la place. Eliju dit l'homme avait l'air d'être un type bien, mais on n'est pas obligé d'apprécier tout ce qu'il a fait artistiquement. Totalement ouais. D'accord. Totalement d'accord. De toute façon, il suffit de voir. Je t'avoue que ce qui va me manquer, malgré tout, ce sont ces interviews, tu en parlais tout à l'heure, mais cette voix. Et ce ton particulier, cette intonation très particulière qu'il a à parler très vite, avec un... Je sais pas, il a une voix particulière. Et Dan Didio, tu l'entends, tu le reconnais instantanément. Le mec est
inimitable. Et il arrive à te rendre enthousiaste sur des trucs dont tu te foutais complètement.
J'ai vu des commentaires négatifs sur le fait qu'il a jamais mis en avant ses artistes femmes, me dit Gray. Oh, sérieux. Oh là là. Oh là là. Il a quand même mis vachement de femmes en avant, je trouve.
Plutôt, oui. C'est surtout ces dernières années.
Ouais, c'est pour ça que je dis que, effectivement, le progressisme. Mais en même temps, enfin, encore une fois, hein, et je vais peut-être pas me faire d'amis en disant ça, mais on n'est pas obligé d'avoir 50-50. Ça doit être au talent, au mérite, et pas juste pour une égalité. Ça ne sert à rien. L'égalité pour l'égalité, c'est con.
Alors, le point de vue qui est défendu assez largement, c'est que, en fait, on n'arrive pas à 50-50 parce que les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Ouais. Ce qui, dans le milieu des comics et surtout des super-héros, ne m'étonnerait pas, par contre.
Novak nous dit, est-ce seulement 5 qu'un mec reste éditeur en chef si longtemps?
Je ne pense pas. J'y pensais ce matin quand on a commencé à préparer l'émission et à réfléchir à mes arguments. Je pense que c'est véritablement une de ces positions dans lesquelles il faut rester entre 5 et 7 ans, mais pas plus. Parce que c'est le temps dont tu as besoin pour impulser une direction. Et je pense que tu commences à sentir l'usure, parce que c'est un poste qui, je pense, est extrêmement exigeant. Il faut être sur le pont, mais 24 heures sur 24 ou quasiment. Et comme on l'a dit dans les commentaires, où tu prends toute la merde tous les jours qui arrive sur ton bureau, tu sens l'usure au bout de quelques années. Mais il faut, à la fois, il faut pas rester longtemps à cause de l'usure, et en même temps, il faut avoir une certaine durée pour imposer une vision. Donc, oui, je dirais 5 à 7 ans. Et ça s'est vu avec Quesada, il est resté 11 ans, et je dirais, moi, la deuxième partie de son run, à partir de 2007-2008, j'y pensais l'autre jour, la fin des années 2000 chez Marvel était catastrophique.
Ouais.
J'ai un gros trou, moi, dans ma collection, quand je regarde mes bibliothèques, 2008, 2009, 2010, j'ai des trous partout, en fait. Parce que j'ai arrêté paquet de séries.
Mais c'est, je sais pas, ça me, ton discours, est-ce que dans ton discours, on pourrait détecter une idée de, bah, pas de double mandat pour les présidents également? Je sais pas, 5 à 7 ans pour impulser une direction, et puis, oui. Bah, ensuite, on est rincé, parce qu'il faut être 24 heures sur 24 sur le pont.
Plutôt pour les gens qui restent, ouais, un président, un mandat présidentiel qui reviendrait à 7 ans, ne me gênerait pas. Et un seul mandat, parce que tu n'aurais pas ensuite l'idée de faut que je fasse des trucs spéciaux pour pouvoir être élu. Non, tu fais ton mandat, tu fais tout ce que t'as à faire et tu te casses.
Voilà en tout cas ce qu'on avait à dire sur cette affaire qui débute un peu. C'est un peu flou encore. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on aura un peu plus de précision d'ici le Comics Weekly de jeudi, et bien sûr on vous relayera tout ça. On pourra prendre un petit moment pour en parler. On n'en fera pas le son de l'émission, c'est pour ça aussi que je préférais qu'on fasse un spécial aujourd'hui, parce que je savais que ça allait prendre du temps d'en discuter. Je veux pas non plus mettre à mal les reviews, et c'est un sujet qui mérite qu'on en discute pendant un petit moment. On est quasiment à 1h30 d'émission, finalement, un petit peu plus que ce que j'avais prévu au départ. Je pensais qu'on aurait qu'une heure, enfin qu'on ferait à peu près une heure. Là, pour ceux qui ne pouvaient pas être là sur le live, hein, je le monte dans la foulée, je le publie, donc je pense que dans l'heure, il sera disponible sur le site. C'est de la réaction à chaud, tant qu'il soit disponible le plus rapidement possible. Le Comic City of the Future Past, finalement, que j'avais prévu de sortir aujourd'hui, sortira demain, histoire qu'il n'y ait pas deux émissions le même jour et qu'elles ne se marchent pas dessus.
Et Lijo qui dit, a priori, si ça se passe comme là, vis-à-vis d'hier, on devrait avoir les infos là, dès la fin de l'émission.
Oui. ça, c'est notre spécialité, ça. Lui dit, c'est sympa de vous écouter l'après-midi. Azol qui dit super émission, merci. Non mais merci à vous d'avoir été là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour un truc qui était vraiment prévu à l'arrache. On a fait une annonce il y a 1h30, enfin 1h30 avant le début.
Merci à vous tous.
Donc c'est super cool d'avoir été là, d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu prendre vos réactions aussi, vos souhaits, ce que vous en pensez. Et puis nul doute qu'on va reparler de tout ça dans les prochaines semaines parce que c'est un gros changement. C'est un gros changement. Rappelons, s'il y a besoin de le faire, que DC, c'est un des big two. Et quand on voit la quantité de titres, et on a parlé des chiffres jeudi, que sur le marché du comics, il y a, en termes d'unités vendues, il y avait à peu près quasiment 50% pour Marvel, 30% pour DC, et tout le reste, donc ça représente 80% des titres. Mmh. Et les 20% restants, c'est toutes les autres petites boîtes, c'est un acteur majeur. Et un changement aussi important va forcément impacter l'industrie.
Ouais. J'espère que ça relancera bien la concurrence entre les éditeurs. Parce que pour moi, la période, on va dire dorée, mon âge d'or, personnellement, on a tous un âge d'or dans les comics, c'était le milieu des années 2000. Là, toute cette période de 2001 à 2005, 2006, On avait un Marvel qui était revenu au top et un DC qui répondait à la concurrence de manière acharnée. C'était de très très belles années.
Je prends juste le commentaire de d'Ulysse là que je trouve très intéressant, qui dit DC va me donner encore moins envie, je le sens. C'est étonnant. J'ai pas l'impression que ce soit le point de vue que l'on partage un peu tous en ce moment. Parce que justement, enfin, on en pouvait tellement tous plus de Didio que le voir partir, on se dit, ah.
C'est une occasion de renaître.
C'est une occasion de renaître. Après,
un rebirth.
Ça peut être une occasion de se cracher encore plus bas. Oui, c'est possible. Oui. Du coup, c'est assez étonnant de voir que, pour des gens, ça, finalement, le départ du Didio va peut-être donner encore moins envie à DC, d'aller lire du DC. Je trouve ça intéressant. Nova qui nous dit on va souhaiter le meilleur, l'annulation de la 5G, une black labellisation de DC et une modernisation de l'univers dans le bon sens. Aussi le retour de toutes les éditions collectées que l'on n'a pas eu sous Didio.
Ouais.
Si on a droit à un renouveau tel celui de Marvel de ces derniers mois, je suis ravi, nous dit Grey, et c'est tout ce que je souhaite également, que Marvel qui a su nous récupérer depuis un an à peu près, qu'on ait exactement la même chose chez DC. C'est tout ce que je souhaite. Ça pourrait nous faire que du bien et nous redonner envie de lire du DC. Avec plaisir. Voilà. Vraiment. On se laisse là-dessus. On vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci encore d'avoir été là, d'avoir partagé cette petite heure et demie avec nous. On se retrouve demain pour le podcatch, car y avait un pay-per-view le week-end dernier, donc on va débriefer tout ça, un pay-per-view NXT, et puis jeudi prochain pour le Comics Weekly, et vendredi pour le Comic City. En fait, ça s'arrête pas, tu vois, j'ai pris une semaine de pause, et maintenant, on recommence. Allez, tous les deux jours, c'est parti. On vous fait des gros bisous, et on vous dit à très vite.
Bon week-end à tout le monde. Oh, am I gonna clean up the mess? All I've got is a whole lot in the chest. Do you mind when I move around? Up in the front, but just for the taste.